Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Regard sur l'Europe pour cette édition en partenariat avec la revue internationale et stratégique dont le dernier numéro pose la question d'une Europe géopolitique. Depuis des années, les 27 membres de l'Union européenne peinent à s'imposer comme la puissance de politique étrangère qu'ils souhaitent être. Le rôle réussi de l'UE dans la coordination de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien s'est avéré être un point diplomatique culminant que depuis elle a du mal à égaler. L'Union européenne peine à façonner les événements mondiaux en même temps qu'elle a besoin d'une sécurité plus pointue. Son inquiétude va croissant à mesure que les frictions entre les pays les plus puissants du monde se sont intensifiées. Elle se heurte de plus en plus fréquemment à une Chine et à une Russie qui s'affirment, se concentre de plus en plus sur le terrorisme et prend des mesures de plus en plus fortes pour mettre fin à la migration irrégulière à travers la mer Méditerranée depuis l'Afrique. D'autres pressions extérieures conduisent les Européens à conclure qu'ils devraient étendre leur rayon d'action militaire. Les États-Unis souhaitent depuis longtemps qu'ils dépensent davantage pour leurs forces armées et qu'ils assurent davantage de responsabilités pour aider à stabiliser les pays proches de leurs frontières, comme l'Ukraine et la Géorgie, auxquelles s'ajoute désormais l'Afghanistan. L'Europe peut-elle être géopolitique? C'est ce que nous allons voir avec nos invités en duplex depuis nos bureaux à Bruxelles. Et j'en profite pour remercier Pierre Benazet, Édouard Simon, directeur de recherche à l'IRIS et co-directeur du dernier numéro de la revue internationale et stratégique. Bonjour.
Bonjour.
Également Frédéric Moreau, chercheur associé à l'IRIS, avocat au barreau de Bruxelles et membre du bureau d'Eurodéfense France. Également auteur de plusieurs rapports sur la défense européenne pour le Parlement européen, dont le dernier sur le Fonds européen de défense. Un rapport coécrit avec Édouard Simon. Bonjour Frédéric Moreau.
Bonjour.
Et par téléphone depuis Oxford, Olivier de France, directeur de recherche à l'IRIS. Bonjour.
Bonjour Marie-France.
Alors première question pour cette émission, l'actualité afghane est-elle un moment de vérité pour l'Europe, Frédéric Moreau?
Eh bien, un moment de vérité, je ne sais pas, l'avenir le dira. En tout cas, il y a évidemment des leçons à tirer de ce qui vient de se passer. Ces leçons, il faut je crois, dissocier dans trois champs de réflexion qui sont la défense, la lutte contre le terrorisme et la politique migratoire. Pour ce qui est de la défense, tout d'abord, la première leçon de ce qui vient de se passer, et c'est une leçon qui vient d'être durement apprise par le peuple afghan dans la douleur, et j'ai une pensée du reste pour tous ceux qui sont là-bas aux prises avec des atrocités, c'est qu'on ne confie pas sa défense à autrui. Voilà. Ça semble être une évidence, mais personne n'assurera notre défense. Comme vient de le déclarer Thierry Breton dans un communiqué de presse, la défense commune n'est plus une option. Toute la question, c'est de savoir comment on fait pour passer du discours aux actes, parce qu'au fond, la défense européenne, la défense commune, c'est une vieille antienne. Maintenant, il suffirait d'arrêter d'en parler, il faudrait la faire. La deuxième leçon à tirer, c'est dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Je crois qu'une des leçons qui s'impose, c'est que la contre-insurrection, la lutte contre-insurrectionnelle ne suffit pas. Je parle même pas du nation building ou du state building, mais la chasse à l'homme par des commandos, ça suffit pas à gagner la paix. Ça peut permettre de gagner la guerre, mais ça ne suffit pas à gagner la paix. C'est nécessaire, de même que toute la lutte contre le terrorisme. Hein, on n'arrête pas les terroristes djihadistes avec des paroles. Mais il faut doubler cette action militaire, cette action des services secrets, par une action, par une lutte avec les idées. Voilà. On combat les idées avec d'autres idées. Et de ce point de vue, paradoxalement, la chute de l'Afghanistan aux mains des talibans peut être une aubaine. Parce que, au fond, pour tous ceux qui font l'apologie de l'islamisme radical, eh bien, ça sera, on va voir comment les talibans vont se débrouiller, comment ils vont nourrir la population, est-ce que ils vont leur donner des Corans à manger. Donc ça c'est, je crois, une deuxième leçon. La troisième leçon, c'est celle concernant la politique migratoire. Je crois que la leçon à tirer, c'est que il faut que les Européens, dans ce domaine, restent extraordinairement unis. Il faut absolument éviter la répétition de la crise de 2015. Ça va être difficile parce que c'est une question qui touche au plus profond de nos identités, de nos identités entre les nations européennes. Hein. La sensibilité autrichienne, polonaise n'est pas la même que la sensibilité italienne ou française. Et au sein même des nations, je crois que c'est vraiment, on est sur le fil entre le droit d'asile, qui est notre dignité, et la politique migratoire, qui est une responsabilité. Voilà. Et c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Quand je vois des hommes politiques en France comme Éric Ciotti à Nice qui proposent de renoncer au droit du sol, là, on se rend compte que vraiment, c'est quelque chose qui touche au plus profond de notre identité.
Alors, on parlera bien sûr des questions migratoires, mais peut-être un peu plus loin dans l'émission. On reste pour l'instant aux leçons concernant l'actualité afghane. Olivier de France, une réaction à ce que vient de dire Frédéric Moreau. On est bien conscient que la question afghane, elle en soulève d'autres, et en particulier, par ailleurs, le bien fondé des interventions militaires. Évidemment, je pense à la question du Sahel. Olivier de France.
Oui, non, tout à fait. Je pense que ça remet en cause au moins deux illusions qu'on tenait pour acquises au tournant du siècle et qui se sont délitées au fil du temps. D'une part, l'idée qu'on pourrait imposer nos valeurs par la force, c'est ce qu'on a appelé au tournant du siècle l'interventionnisme libéral. En l'occurrence, l'Irak et l'Afghanistan ont été le cimetière de cette illusion-là. Et d'autre part, l'idée que le monde évoluerait vers les valeurs européennes ou les valeurs américaines. C'est-à-dire que, en fait, les normes européennes et les valeurs américaines, en fait, se diffuseraient par capillarité, par la pure puissance de la norme. Je pense qu'effectivement, ces deux illusions-là se sont effilochées au fil du temps. Après, la question, c'est de savoir est-ce que l'Afghanistan est un moment de vérité. Là, je suis plutôt d'accord avec Frédéric. On a eu pas mal de moments de vérité au cours des dernières années. Si on remonte un peu le fil du temps, les épisodes précédents, on a eu la Crimée, l'Ukraine. On disait que l'Europe devait prendre ses responsabilités. On a eu le pivot asiatique d'Obama. On a eu l'élection de Trump. On a eu le Brexit. On a dit à chaque fois que l'Europe devait prendre ses responsabilités. L'Europe a fait des progrès. Est-ce que ça se traduira de manière tangible et dans le temps? Effectivement, seul l'avenir nous le dira.
Alors évidemment, et Frédéric Moreau l'évoquait, on a entendu Thierry Breton dire que la défense commune n'est plus une option, Édouard Simon. Autant dire qu'on avance vraiment tout de même.
On avance depuis 2016, c'est le cas. Mais peut-être qu'il y a quelque chose de spécifique qui se joue avec l'Afghanistan. Il y a eu effectivement des progrès qui ont été faits depuis 2014. Hein. Olivier évoquait tout à l'heure la crise de l'Ukraine. La crise ukrainienne, peut-être plus que d'autres crises, a été, perçu comme une déstabilisation potentielle de l'architecture de sécurité de l'Europe par la plupart de nos partenaires. Ça a peut-être moins été le cas en France, mais ça a été le cas chez nos partenaires, et particulièrement chez les Allemands. Et je pense que beaucoup du débat sur le futur de la défense européenne se joue actuellement en Allemagne. Et à ce titre, d'ailleurs, il sera intéressant de voir comment est-ce que cette crise, quelle conséquence cette crise aura sur le débat public en Allemagne sur les questions de défense. Est-ce qu'on a besoin d'être plus capable au niveau européen pour pouvoir intervenir là où on veut intervenir en tant qu'Européen et ne pas laisser les gens qui nous ont aidés, par exemple en Afghanistan, parce que les Américains se sont engagés sur une date de retrait sur laquelle ils ne céderont pas et qu'on n'est pas capable de suppléer aux Américains? Ou est-ce que ça va se traduire par une volonté de retrait, de ne plus intervenir dans le cadre d'OPEX? Et là, on peut se poser la question l'intensité de l'intervention allemande au Sahel, par exemple. Et quelles seront les priorités du prochain gouvernement allemand sur cette question? C'est pas évident d'y répondre, et je pense qu'il y a une bonne partie qui dépendra de la suite de la campagne, tout bêtement. Je pense qu'il y a un événement quand même qui est très important à voir et qui donne des points, qui rééquilibre le débat entre l'UE et l'OTAN, entre la place de l'UE et de l'OTAN dans la construction d'une défense de l'Europe, c'est que l'Afghanistan, c'était une mission de l'OTAN. Et que pour certains États, comme l'Allemagne, comme le Royaume-Uni, être en Afghanistan, c'était la raison d'être de l'alliance. Mmh. N'oublions pas que si les Européens sont intervenus en Afghanistan, c'est parce que les États-Unis ont déclenché le fameux article 5 et pour la première fois de leur histoire. Donc c'était une question, c'est la crédibilité de l'alliance qui aujourd'hui potentiellement peut être atteinte. On peut clairement pas dire que c'est un succès. Ça fait 20 ans que le 11 septembre, ça, on va fêter le 20e anniversaire du 11 septembre. Biden voulait, Trump avant lui et Biden aujourd'hui voulaient dire, on a fini la guerre en Afghanistan. En fait, on retourne à la case de départ en ayant dépensé 2 trillions de dollars entre temps.
Vous écoutez RFI. Géopolitique.
Alors, relations UE-OTAN, bien sûr. Les deux pays européens les plus affectés et les plus concernés par ce départ américain d'Afghanistan, ce sont l'Allemagne d'un côté, le Royaume-Uni de l'autre. Une vraie claque pour l'un comme pour l'autre. Et en particulier pour le Royaume-Uni, c'est de constater que, alors non seulement l'Europe n'est plus prioritaire pour les États-Unis, mais cette alliance soi-disant particulièrement forte entre Washington et Londres ne vaut pas davantage, Frédéric Moreau.
Ah ben, c'est tout à fait clair. C'est-à-dire, une des leçons à tirer pour ce qui est de la relation avec les États-Unis, c'est que l'alliance apparaît à nu. Elle apparaît pour ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire, elle est un protectorat marqué par des liens de suzerain à vassal, et elle n'est pas une alliance. Hein, excusez-moi de forcer le trait, mais voilà, c'est une leçon amère pour tous ceux qui ont fait de l'OTAN l'alpha et l'oméga de leur politique de défense, à commencer par nos amis britanniques. Ils peuvent maintenant grogner tant qu'ils veulent. Theresa May peut dire ce qu'elle veut à la Chambre des communes, mais il n'y a pas d'alternative pour eux. D'autant que, depuis 20 ans, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher l'émergence d'une défense européenne, et que maintenant le roi se retrouve un petit peu nu. Il se retrouve paradoxalement dans la situation qui est la même que celle des Gourkas vis-à-vis d'eux-mêmes. Et donc, voilà, ils partent quand on leur dit de partir et ils reviennent quand on les siffle. C'est une leçon très amère.
Alors, on l'a cité, Thierry Breton, qui dit « la défense commune n'est plus une option », et on a pu lire les propos d'Emmanuel Macron la semaine dernière dans le journal du dimanche, où il évoquait et il affirmait l'Europe de la défense, l'autonomie stratégique, c'est maintenant. Olivier de France, autonomie stratégique, défense européenne, de quoi est-il question aujourd'hui et où en est-on précisément ?
En fait, moi j'ai envie de parler de vulnérabilité ou de solitude stratégique. C'est une notion dont on parle dans le dossier qui a été dirigé par Édouard Simon dans la revue internationale et stratégique. C'est vraiment cette impression de vulnérabilité et de solitude que l'Europe a ressentie pendant la pandémie de Covid-19, que finalement le Royaume-Uni ressent aujourd'hui vis-à-vis de l'Afghanistan, qu'on a pu ressentir également vis-à-vis de la Chine ou d'autres acteurs mondiaux. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que avant de parler d'autonomie stratégique ou de concepts qui sont un peu abstraits comme ça, l'idée c'est de se demander en fait, est-ce que l'Europe peut exister dans la mondialisation, est-ce qu'elle peut peser, est-ce qu'elle peut défendre ses intérêts? Et finalement, est-ce qu'elle peut choisir ses dépendances ? Parce qu'on dépendra toujours de quelqu'un, mais est-ce qu'on est en mesure de choisir nos dépendances plutôt que de les subir ? Et ce que je trouve intéressant là dans cette crise afghane, au-delà de son côté tragique naturellement, c'est en fait l'effet que ça peut avoir au niveau de la psychologie populaire, c'est-à-dire la psychologie des peuples. Parce que bien sûr, tout ce dont on parle et ce dont on a parlé, pour l'instant, ça relève finalement des appareils d'État, ça relève des chancelleries, ça relève des gouvernements. Et ici, au Royaume-Uni, au niveau populaire, le traumatisme de l'intervention en Irak est incroyablement vivace, y compris parmi ceux qui ne s'intéressent que très très vaguement à la marche du monde, si vous voulez. Et je me demande si cet épisode afghan, notamment en Allemagne, mais aussi au Royaume-Uni, ne sera pas un coup de boutoir similaire qui frappe non seulement les appareils d'État, mais qui marque vraiment les consciences au niveau des peuples allemands, des peuples britanniques et des peuples européens.
Ce qui veut dire aussi nécessité, et ça met peut-être du poids dans ce moulin-là, nécessité de débats parlementaires dès lors qu'il faut prendre ce type de décision. Un commentaire, Édouard Simon ?
Oui, moi je souscris totalement à ce que vient de dire Olivier, à ce détail près que l'effet sur la psychologie populaire, l'effet sur les peuples européens et en particulier en Allemagne où encore une fois on est dans un contexte qui est très particulier qui est celui d'une élection et on va bientôt avoir le même contexte en France qui hystérise les débats et qui cristallise aussi des positions politiques parfois de manière caricaturale en fait peut partir dans un sens ou partir dans l'autre. Et il me semble que, moi, le risque que je vois sur la campagne actuelle en Allemagne, c'est que, disons, l'appareil diplomatico-militaire souscrive à l'idée que nous devons faire plus au niveau européen parce que nous ne voulons plus nous retrouver dans la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés en août 2021, mais que par défaut de pédagogie, en fait, on se retrouve sur un clivage ancien de devons-nous intervenir ou pas en dehors de nos frontières ? Et on sait que la question est particulièrement sensible, critique en Allemagne. Et malheureusement, les périodes de campagne électorale sont souvent de mauvaises périodes pour faire de la pédagogie. Après, c'est justement, me semble-t-il, l'intérêt d'avoir ce débat au niveau européen. Parce que si on arrive à avoir un débat transnational sur cette question, c'est-à-dire si on accepte de se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire dans ce type d'opération extérieure ? Quelle fin est-ce qu'on poursuit ? Quel résultat on recherche ? Qu'est-ce qu'on et quel résultat on peut crédiblement atteindre à travers ce type d'opération ? Et clairement, ce que nous montre l'Afghanistan, c'est que dépenser beaucoup d'argent ne suffit pas à reconstruire une nation ou un État et que probablement construire une nation ou un État à partir de rien, ce n'est pas un objectif atteignable. Voilà, il faut accepter de poser ce débat-là au niveau européen, entre États européens, parce que sinon ce sera un débat qui sera nationalisé.
Nécessité d'un débat transnational, et j'ai cette question pour terminer cette première partie d'émission que j'ai pas encore eu le temps de poser. On évoque aussi cette sorte de sonnette d'alarme tirée avec la décision américaine vis-à-vis de l'Afghanistan. En ce qui concerne l'Ukraine, l'achat de l'Afghanistan par Washington peut-il être un avertissement pour l'Ukraine, Frédéric Moreau?
Ah ben c'est clair, c'est encore une fois, je reviens à ma première observation. S'il y a bien une chose, un enseignement à tirer, c'est qu'on ne peut pas déléguer sa sécurité, sa défense à autrui. C'est vrai pour le peuple afghan, c'est vrai pour l'Ukraine, c'est vrai pour l'Union européenne à large. La leçon c'est quoi ? C'est que il y a trois enseignements à tirer. La première, c'est que les États-Unis ne défendront l'Union européenne exclusivement si c'est dans leur intérêt. Et cette définition des intérêts américains est contingente et relative. Elle varie en fonction de qui est à Maison Blanche, elle varie en fonction de la nature de l'agression et elle varie en fonction des circonstances. La deuxième chose, c'est que l'Union européenne, en tant que puissance commerciale, sera toujours freinée dans son existence, dans son essor, si elle n'est pas capable de se défendre par elle-même. On l'a bien vu avec Trump, qui a fait un chantage, qui a une approche transactionnelle de la sécurité et du commerce, en disant, écoutez, si vous arrêtez pas de vendre des BMW aux États-Unis, moi je retire mes soldats américains d'Allemagne et je les mets en Pologne. Eh bien, la même chose peut arriver avec l'Ukraine, donc c'est quand même très très inquiétant. Et puis, il faut faire très attention parce que l'Union européenne en tant que telle risque d'être de nouveau embarquée dans des guerres qui ne sont pas les siennes. Je pense à ce qui est en train de se jouer dans l'Indo-Pacifique. Voilà. Donc, est-ce que notre intérêt, c'est de suivre aveuglément les États-Unis ou est-ce que c'est, au contraire, d'essayer de tisser des liens, de désamorcer les crises et d'être capable surtout de nous défendre par nous-mêmes et de défendre nos alliés, dont l'Ukraine.
Alors on poursuivra dans la deuxième partie de l'émission. On vous retrouve Frédéric Moreau, Olivier de France et Édouard Simon après le journal. À tout de suite.
En sol majeur, géopolitique, Marie-France Chatin.
Regard sur l'Europe pour cette édition en partenariat avec la Revue internationale et stratégique, dont le dernier numéro pose la question d'une Europe géopolitique. Nous retrouvons nos invités en duplex depuis nos bureaux à Bruxelles. Édouard Simon, directeur de recherche à l'IRIS et co-directeur du dernier numéro de la Revue internationale et stratégique. Frédéric Moreau, chercheur associé à l'IRIS, avocat au barreau de Bruxelles et membre du bureau d'Eurodéfense France. Et par téléphone depuis Oxford, Olivier de France, directeur de recherche à l'IRIS. On a évoqué dans la première partie de l'émission l'impact finalement de la crise afghane sur l'Europe. On a mentionné les propos du président français Emmanuel Macron qui disait l'Europe de la défense, l'autonomie stratégique, c'est maintenant. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui de l'Union européenne de la défense, de notre autonomie stratégique? Quel bilan et où en est-on exactement, Olivier de France?
Alors, comme le mentionnait Édouard tout à l'heure, on a fait de gros progrès depuis 2014. Hein. Il y a eu, pour le coup, après quand même 10 ans de traversée du désert et de finalement de déclarations rhétoriques, on a fait des progrès tangibles hein, sur le plan à la fois opérationnel et sur le plan des moyens, ce qu'on appelle des capacités dans le jargon militaire. La réalisation la plus marquante, finalement, a été le Fonds européen de défense. C'est-à-dire qu'en gros, on a une ligne dans le budget communautaire pour financer la recherche et le développement en matière militaire, ce qui est relativement importante puisqu'elle est de 8 milliards, un peu moins importante que ce qu'on anticipait. Mais ce qui est important, c'est qu'elle brise un tabou à Bruxelles au niveau du financement sur les questions militaires. On a la facilité européenne pour la paix, la coopération structurée permanente. Donc tout ça, ce sont des sortes d'instruments. Et puis on a des concepts, hein, vous le mentionnez tout à l'heure, l'autonomie stratégique ou la souveraineté européenne, l'Europe géopolitique, la commission géopolitique. Donc en fait, on a une batterie à la fois de concepts, de moyens et de budget. Donc ce qui peut commencer, si vous voulez, à avoir un impact tangible sur la question de la défense européenne. Ce que je disais cependant tout à l'heure, en parlant de solitude ou de vulnérabilité stratégique, c'est que en fait, il y a quelques limites à dire l'appareil politico-militaire où les gouvernements doivent faire de la pédagogie envers les peuples pour leur expliquer en gros que la défense commune est une bonne chose ou même que l'intervention extérieure est nécessaire. Pour moi, je pense qu'on pourrait profitablement tenter l'approche inverse, c'est-à-dire finalement partir des préoccupations des peuples. C'est-à-dire plutôt que de parler d'autonomie stratégique ou de parler d'Europe géopolitique, partir en fait des vulnérabilités qui sont perçues, ressenties par les peuples. C'est-à-dire de qui est-ce qu'on dépend et pourquoi. De qui est-ce qu'on dépend sur les questions industrielles, sur les questions technologiques, sur les questions stratégiques. Alors ça peut paraître abstrait comme ça, mais concrètement c'est quoi? Ce sont des masques, ce sont du paracétamol, ce sont des drones, etc. Et à partir de là, on pose la question, est-ce qu'on souhaite dépendre d'acteurs tiers ou est-ce qu'on souhaite pouvoir finalement exister par nous-mêmes et défendre nos propres intérêts dans ces différents domaines. Et en partant de là et en partant de cette impression assez vivace de vulnérabilité ou de solitude stratégique que les Européens ressentent finalement lors d'événements comme l'Afghanistan ou lors d'événements comme la pandémie de Covid-19 ou lors d'événements économiques comme la déclaration de Donald Trump à l'époque qui caractérisait en fait l'Union européenne comme un ennemi sur le plan économique et commercial. C'est à partir de ces événements marquants-là, à mon avis, qu'on peut essayer de finalement construire une défense européenne par et avec les peuples plutôt que contre, en fait.
Alors, pour abonder dans votre sens, c'est vrai que par rapport à cette notion de nécessité de se pencher sur les inquiétudes des populations, il y a tout de même ce sondage assez révélateur qui souligne que ce que craignent le plus les Européens aujourd'hui, c'est le changement climatique. Évidemment, on est loin des questions de défense. La difficulté, c'est finalement d'articuler tout cela entre l'ancien et le nouveau. Édouard Simon ?
Oui, il y a probablement une problématique sur l'articulation des anciens et des nouveaux risques, mais j'aimerais juste revenir sur ce que vient de dire Olivier, qui est très intéressant. Et c'est clair qu'il faut utiliser la sensibilité des Européens aux nouveaux risques comme un facteur pour faire monter cette question de défense européenne, mais pour faire monter plus largement la question de comment est-ce qu'on construit une résilience européenne face aux crises. Cela étant, vous citiez tout à l'heure un sondage, ce sondage qui montrait que le changement climatique était perçu comme le principal risque par les Européens. Ça l'est parce que il y a eu de la pédagogie très forte qui a été faite sur la nature de ce risque, ce que ça représenterait dans les années à venir. Le problème, c'est que si on part uniquement des vulnérabilités telles qu'elles sont vécues, telles qu'elles sont ressenties, en fait, on risque de passer d'une crise à l'autre en préparant toujours pour l'avenir la crise qu'on vient de connaître. Je veux dire, regardez ce qui s'est passé sur les masques pour la crise sanitaire du Covid. On aurait posé la question de est-ce qu'on veut être dépendant de la Chine sur les masques avant la crise de la pandémie? Alors que les experts nous disaient le risque d'une pandémie est extrêmement élevé dans les 10 ans, 10 ou 20 ans qui arrivent, on a fait le choix de laisser se délocaliser cette activité et de ne pas renouveler nos stocks de masques en Europe. C'est un choix qui était tiré par la tyrannie de l'instant présent. On a besoin de se réinscrire collectivement en Europe dans une perspective de long terme pour développer une appréhension, une compréhension commune du monde qui nous entoure, et c'est un monde qui est en mutation. Profitons du fait que le monde est en train de changer. Frédéric évoquait tout à l'heure le fait que les intérêts vitaux des États-Unis étaient contingents. Moi, je pense surtout qu'ils sont en train de se redéfinir très largement. Et ce que nous a appris la crise afghane, c'est que finalement, la personnalité du président américain n'est pas si importante que ça, et que ce qui a été commencé par Trump et poursuivi par Biden, le monde est en train de changer. Il y a un rééquilibrage des puissances et qui se fait au détriment de l'Europe. Utilisons ce contexte pour faire monter justement cette conscience qu'il faut qu'on fasse plus ensemble. C'est justement, Olivier évoquait tout à l'heure tout ce qui a été réalisé depuis 2014. Il me semble qu'il faut ajouter une brique qui est aujourd'hui en plein développement et qui est un enjeu majeur et qui se retrouve renforcé dans son intérêt par la crise afghane, c'est l'exercice de la boussole stratégique. L'exercice de la boussole stratégique qui a été lancé il y a un peu plus d'un an par la présidence allemande du Conseil a pour vocation de permettre le développement justement d'une vision commune, d'une compréhension commune du monde. Parce que quand vous posez la question aux Européens, est-ce que vous êtes d'accord, vous êtes en faveur d'une armée européenne ou d'une défense commune, la plupart des Européens vous répondent très largement oui. Le problème, c'est qu'ils n'entendent pas la même chose parce que c'est qu'une défense commune.
Alors, on a bien entendu à plusieurs reprises et venant de chacun ce besoin d'unité au niveau de l'Europe. C'est vrai que c'est probablement ce qui fait le plus défaut, d'abord par la position de chacun des pays et ensuite par le système décisionnaire au sein de l'Europe. Est-ce que l'Union européenne vous paraît finalement suffisamment efficacement adaptée face aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui, Frédéric Moreau?
Bah, écoutez, la réponse est évidente. La réponse, c'est non. Pour moi, l'équation de la défense européenne n'est pas résolvable dans un cadre intergouvernemental. Il faut bien voir que chaque fois qu'on parle de défense européenne, on fait comme si elle existait. Et c'est pour ça que j'aurais peut-être un avis beaucoup un peu différent de celui d'Olivier, peut-être moins optimiste en disant la défense européenne a fait des progrès. C'est vrai, elle a fait des progrès. Le Fonds européen de défense en est un. Et le compas, la boussole stratégique est porteuse de beaucoup d'espoir. J'espère qu'elle ne sombrera pas dans le ridicule. Mais il faut faire très attention à ne pas laisser à croire au peuple que cette défense européenne existe, ce qui n'est pas le cas. Ce sont les États qui ont les clés de la défense européenne. Chaque fois qu'on parle on dit « Ah, mais qu'a fait l'Europe ?» L'Europe, l'Union européenne plus exactement, n'a pas de compétence en matière de défense. La compétence opérationnelle décisionnaire est dans la main des États membres, et c'est précisément parce qu'elle est dans la main des États membres qu'on n'avance pas. Et on n'avancera pas dans un cadre institutionnel qui est celui où les décisions se prennent à l'unanimité. C'est pas possible. C'est pas vrai. Il y aura toujours tel ou tel État qui, pour des raisons tout à fait légitimes, que ce soit la neutralité constitutionnelle, que ce soit la crainte de se distancier des Américains, s'opposera à la constitution d'une défense européenne. Donc je crois que la question, encore une fois, c'est comment on passe de ce constat que l'autonomie stratégique est nécessaire, constat sur lequel les peuples, du reste, sont bien en avance sur les dirigeants, Si vous faites un sondage pour l'armée européenne, il y a une majorité depuis très longtemps qui est en faveur de l'armée européenne. Pourquoi ça se fait pas? Mais parce que, comme le disait Olivier, les décisions se prennent dans les chancelleries et dans les premiers ministres. Donc, comment on fait? Je crois que ce qui est essentiel, c'est de se poser les questions dans le bon ordre. Pour qu'il y ait une défense européenne, il faut trois ingrédients. Il faut, un, l'intention, hein, comme disait De Gaulle, au commencement de l'action était l'intention. C'est-à-dire la question du qui. Qui veut vraiment d'une défense européenne? Tous ne le voudront pas. Donc il faut que quelques États se prennent en main et disent « nous, on veut vraiment faire une défense européenne ». La deuxième question, c'est celle du mécanisme politique. La défense européenne se fera pas quand on mettra deux industriels en face ou deux généraux en face, elle se fera quand on mettra des hommes politiques et surtout qu'on aura un mécanisme de décisionnel efficace. Et puis troisièmement, les capacités, mais les capacités suivront dès lors qu'on aura un cadre décisionnel efficace. Donc encore une fois, il faut répondre aux questions dans le bon ordre, il faut pas partir des capacités. Regardez ce compas stratégique, on va partir de nouveau sur l'idée qu'il faut une force d'entrée en premier. Joseph Borrell avait dit 50 000 hommes, et puis on s'est dit non, il s'est pris les pieds dans le tapis, c'est pas 50 000, c'est 5 000, enfin ça va finir en autre boudin, quoi. Mais ces 5 000 hommes, si on se met pas d'accord d'abord sur comment les employer, comment les utiliser, ça ne rime à rien. On va refaire les mêmes erreurs qu'à Helsinki, les mêmes erreurs qu'avec les battle groups, et donc ça sert à rien. Le cadre institutionnel adapté n'est pas le bon. Il faut changer. Il faut un groupe pionnier. Il faut un eurogroupe de défense. Il faut quelques États qui se lancent.
Olivier de France, un commentaire.
Bon, je partage beaucoup, mais pas tout, de ce qu'a dit Frédéric. Je pense qu'il faut partir finalement de choses très simples. Par exemple, l'idée que finalement dans le monde d'aujourd'hui, en fait, vous n'avez rien sur le plan intérieur qui ne soit dépendant de quelque chose sur le plan extérieur. Donc que ça touche en fait tous aux objets du quotidien, que en fait quelque chose qui soit un peu tangible pour les peuples, qui est un peu de la sueur et des larmes, si vous voulez, un peu de chair. Et à partir de là, si vous voulez construire non pas une sorte de si vous voulez, d'impératif ou de narratif de politique étrangère, mais une sorte de récit stratégique. En fait, qu'est-ce que souhaitent les peuples? Alors, il y a beaucoup à dire. Édouard en a parlé aussi, des sondages, en fait, des eurobaromètres sur la majorité d'Européens qui veulent une armée européenne ou qui veulent une politique étrangère commune, qui veulent une défense commune. Édouard l'a mentionné souvent. Vous avez autant de conceptions de la défense commune qu'il y a de pays, voire parfois d'individus dans une même pièce. On a essayé de faire un petit peu la même chose ici avec des collègues à Oxford en essayant de déterminer en fait ce que la jeune génération d'Européens pensait. Donc c'est un rapport qui a été dirigé par l'historien Timothy Gordon Nash qui a été publié récemment. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, quand on regarde la jeune génération, cette idée d'Europe géopolitique, cette idée d'obsession de la frontière, en fait, c'est quelque chose que les jeunes n'ont pas en grande majorité. Il n'y a pas de consensus sur l'idée que dans la jeune génération, en fait, l'Europe doit être une superpuissance géopolitique. En fait, les jeunes sont beaucoup plus intéressés par la liberté de mouvement, par les droits LGBT, par le changement climatique, vous l'avez mentionné. Et donc, c'est pour ça que derrière ces sondages, en fait, derrière ces eurobaromètres, vous avez toute une série de clivages qui peuvent être géographiques, mais qui peuvent être générationnels. Et je pense que c'est bien sûr, comme Édouard l'a dit, il y a un degré de, comment dire, on peut pas naviguer effectivement de crise en crise en prenant le ressenti des peuples sur des questions diverses et variées, mais on peut pas non plus le faire sans le ressenti des peuples et je veux dire en partant, si vous voulez, des différentes générations, des différents pays, des différentes parties de l'Union européenne, essayer de créer une sorte de, si vous voulez, de polyphonie stratégique, en fait.
Polyphonie stratégique, c'est tout à fait joli.
Plutôt qu'une cacophonie.
Ça demande de l'unité. En tout cas, si on pousse plus loin la réflexion, Édouard Simon, finalement, l'Europe géopolitique ne passe pas forcément et uniquement par le militaire, on l'a bien compris.
Alors, elle L'affirmation géopolitique de l'Europe passe nécessairement par une construction d'une défense européenne, ou en tout cas par un renforcement très conséquent des efforts que les Européens font en matière de défense. Elle passe pas uniquement par ça, pour une raison qui est simple, c'est que la notion de puissance s'est considérablement complexifiée avec la mondialisation. Et aujourd'hui, on voit bien que la coercition économique, par exemple, a des effets que pouvait avoir une guerre il y a quelques décennies. Donc, on a besoin d'avoir une approche, une approche exhaustive, une approche globale de ces questions. Et c'est là où l'Union européenne est à la fois bien préparée et mal préparée pour faire face à ce défi. Elle est bien préparée parce que c'est le seul niveau qui est véritablement pertinent à l'échelle du monde pour adresser un certain nombre de défis, et qu'elle a entre ses mains un certain nombre de compétences qui lui permet, typiquement, même sur les questions militaires, elle a des outils en pré-conflit, en post-conflit, mais le fait qu'elle ne maîtrise pas les outils de conflit, les outils d'engagement sur le terrain, fait qu'en fait, cette approche globale qu'elle a n'a pas de valeur ajoutée. Donc elle a besoin de monter en compétences, de renforcer ses compétences en matière de hard power et de mieux articuler ses efforts en termes de politique étrangère. Et c'est là où je trouve que la notion d'autonomie stratégique européenne est particulièrement intéressante. Tout à l'heure, Olivier parlait de la nécessité de construire un récit stratégique. Et c'est typiquement ça, l'autonomie stratégique européenne, c'est en train de devenir à la fois le nouveau récit stratégique des Européens, mais c'est aussi en train de devenir leur projet pour le 21e siècle, comme le disait Charles Michel. C'est un projet qui va au-delà des questions de défense, et tout l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'on n'oublie pas les questions de défense au passage, parce qu'il y a cette tension qui existe. Frédéric l'a rappelé, les questions de défense, elles sont clivantes, et dans un environnement qui fonctionne à l'unanimité, on a tendance à mettre la poussière sous le tapis, même si les crises nous rappellent que sur les questions de défense, ça ne marche pas très longtemps. Mais cette notion d'autonomie stratégique européenne qui permet de repenser les rapports de l'Union européenne avec le monde tel qu'il est en train de bouger, que ce soit en matière commerciale, la politique commerciale de l'Union s'est considérablement transformée, que ce soit en termes de politique industrielle, on a une vraie prise de conscience, et au-delà de la prise de conscience, on a un certain nombre d'initiatives pour repenser ce que doit être une stratégie industrielle au niveau du continent européen. C'est vrai en matière environnementale, c'est vrai en matière diplomatique, c'est vrai en matière de défense. Maintenant, les deux défis, c'est muscler le hard power, parce que dans un monde de moins en moins sûr, où les alliances sont aussi de plus en plus questionnées, on a besoin de pouvoir intervenir si on a besoin de défendre nos intérêts ou nos valeurs lorsqu'elles sont agressées ou lorsqu'elles sont en danger. Et c'est considérablement améliorer l'articulation et la cohérence de notre action, à la fois en interne, en externe et entre l'interne et l'externe. Et ça, c'est un vrai défi, parce que l'Union européenne, elle vivait très bien dans un monde multilatéral qui laisse du temps à la formation d'un intérêt européen à 27. Or, aujourd'hui, on a le retour des logiques de puissance, on a en face des États pour qui la définition d'un intérêt se fait assez rapidement au sein de leur appareil administratif et militaire, et c'est pas le cas au niveau européen. Il faut qu'on avance sur cette question. Du coup, pour répondre un peu, pour rebalancer le débat qu'il y avait entre Olivier et Frédéric sur est-ce qu'on avance d'abord sur l'institutionnel ou d'abord sur la vision, moi j'ai l'impression qu'il faut avancer sur les deux, malheureusement, et qu'on n'a pas le choix d'avancer sur les deux. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va passer au vote à la majorité qualifiée sur les questions de politique étrangère tout de suite? Probablement pas, mais il faut qu'on avance maintenant, qu'on permette de mettre en place des systèmes où une voix ne peut pas bloquer les 26 autres voix qui veulent faire quelque chose.
Un sujet, en tout cas, cette question de l'Europe géopolitique sur laquelle on aura l'occasion de revenir. Merci Édouard Simon. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'IRIS et co-directeur du dernier numéro de la revue internationale et stratégique, dont le titre est « Une Europe géopolitique pour d'interrogation. Merci aussi à Frédéric Moreau, chercheur associé à l'IRIS, avocat au barreau de Bruxelles et membre du bureau d'Eurodéfense France, et Olivier de France qui était avec nous par téléphone depuis Oxford, directeur de recherche à l'IRIS. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo, Yasmine et Nathalie Laporte. À demain.